Au réseau Cogeco, vous écoutez les week-ends de Paul Oud, votre magazine de la fin de semaine.
L'annuel de l'automobile 2022 nous est arrivé. Avant, on attendait le Beaujolais nouveau, mais là, c'est l'annuel nouveau. Et quelle édition! 700 pages, papier glacé, couleur, tous les modèles y passent. Et on le rejoint en direct de la ville de BMW, c'est-à-dire Munich, en Bavière, en Allemagne. Benoît Charrette est en plein milieu de l'après-midi. Bonjour, Benoît.
Salut, Paul.
Je pense ne pas me tromper en disant que Munich, ça sonne avec BMW.
Ah, tout à fait. La ville possède probablement... La société possède à peu près la moitié de la ville.
Ben, tu vois, juste au nord, pas mal au nord, Stuttgart, c'est la ville de Porsche et de Mercedes. Et BMW...
Exactement. Et entre les deux, tu as Ingolstadt, qui est la ville d'Audi.
De Audi à Ingolstadt. BMW, ça le dit d'ailleurs, Bayerische Motor. Donc, ça, c'est vraiment la ville là, de la firme BMW.
Oui, absolument.
Et est-ce que tu fais des essais BMW seulement?
En fait, non. J'ai fait un essai Mercedes ce matin. J'ai eu l'occasion d'essayer la EQS, qui est le nouveau véhicule électrique, l'Informa de la compagnie. On présentait la BMW iX, que j'ai pas eu le temps de conduire parce qu'on a une journée pour faire le salon. C'est extrêmement serré. J'étais en conversation il y a quelques minutes avec le directeur de la mobilité et de l'automatisation chez Mercedes-Benz, qui nous a appris qu'on va, en novembre, avoir le premier véhicule autonome de niveau 3 au monde, certifié. C'est une énorme nouvelle.
Oui, mais autonome, là, t'as pas besoin d'avoir un chauffeur au volant.
C'est-à-dire, non, t'as besoin d'avoir un chauffeur. C'est qu'en ce moment, il n'y a pas une compagnie au monde qui est niveau 3, parce qu'avec un niveau 3, c'est la compagnie qui devient responsable en cas d'accident. Et ça, c'est un pas majeur en avant. Regarde, aux États-Unis, Paul, en ce moment, la NHTSA, le National Highway Traffic Safety Administration, enquête sur Tesla, qui a connu à peu près 26 accidents, quelques décès, à cause des fameux autopilots qui ne fonctionnaient pas.
Ouais.
Et là, il faut voir qui est responsable. Alors, c'est un niveau 2, même si on clame que la voiture se conduit seule, alors qu'un niveau 3, comme Mercedes va avoir, s'il y a un problème, c'est Mercedes qui est responsable. Donc, il faut avoir une confiance presque aveugle en sa technologie pour certifier un véhicule comme celui-là. Mais là, ce qu'il faut dire, c'est qu'il va être certifié en Allemagne, pour commencer. Ensuite, ça va être les États-Unis, mais dans deux États, la Californie et le Nevada. Et ensuite, on vise la Chine. Parce qu'évidemment, Mercedes doit négocier au cas par cas avec les différents gouvernements pour voir comment sont les panneaux de signalisation, les autoroutes, la réglementation, faire des essais, être approuvé par les différents organismes de sécurité dans les pays où ils veulent aller. Donc, c'est un processus qui est assez long. On n'a pas dit qu'on viendrait jamais au Canada, mais on n'a pas encore vraiment commencé. Donc, on peut pas penser à ça demain matin chez nous, mais on commence à en avoir sur la planète, ce qui est intéressant.
Bon, alors, cet annuel de l'automobile 2022, Benoît, a été fait avec tes collaborateurs, Carl Nadeau, Éric Lefrançois, José Godette, qui...
Absolument. José, mon vieux complice des légendes de la route, qui a embarqué dans le projet cette année avec beaucoup de dynamisme, je dirais. José, c'est un passionné. Puis lui-même, une collection d'auto, et il a adoré chaque moment de son aventure cet été.
Benoît, pourquoi, on va y aller avec les deux, mais je veux que tu me dises pourquoi, en première page, c'est-à-dire sur la couverture du livre de 700 pages, on retrouve d'abord la Hyundai Ioniq 5.
Oui. Bon, une couverture, Paul, je pars toujours du principe qu'au moment où le livre arrive, les véhicules ne devront pas encore être commercialisés. Parce que comme le livre est sur les tablettes pour 6 à 8 mois, d'arriver avec un véhicule qui est déjà sur la route en septembre, les gens qui vont l'acheter à Noël vont avoir l'impression d'acheter pas un livre qui est passé date, mais qu'on a déjà pas mal vu ce qu'il y avait sur la couverture.
Okay.
Donc, autant le IONIQ 5 que la Nissan Proto Z, c'est des véhicules à venir. Le premier va arriver quelque part à la fin de l'année, l'IONIQ 5, et la Z va arriver quelque part au printemps prochain. Donc, même les gens qui achètent le livre un peu plus tard cette année vont encore avoir des véhicules tout neufs sur la couverture. Donc, ça, c'est un critère important. Bon, il y a évidemment des critères esthétiques. Les couleurs de ces deux véhicules-là se mariaient bien. J'avais d'autres choix, j'avais d'autres véhicules, j'avais eu soit que l'angle n'était pas bon, on ne voyait pas le véhicule sur son meilleur jour, ou la couleur n'était pas bonne avec ceux qu'on avait choisis pour la couverture. Donc, les élus, finalement, ça a été ces deux modèles-là.
Est-ce que ce sont des véhicules électriques?
Le IONIQ 5 est 100% électrique. Alors que la Z, bien évidemment, c'est une tradition japonaise, une des rares voitures légendaires au Japon, qui revient dans une nouvelle formule cette année. Donc, je trouvais ça intéressant de le souligner parce que ça rejoint plusieurs générations de lecteurs. Ça existe depuis 1972. Donc, à peu près tout le monde qui va acheter la nouvelle a connu une forme ou une autre de Z.
Il y a un de mes amis qui savait que j'allais faire une entrevue avec toi, Benoît, aujourd'hui, qui a une question. Il dit tout le monde parle de voitures électriques, de voitures hybrides un peu moins, mais quand même de voitures électriques. Moi, j'ai une question pour Benoît Charrette. Avec le scandale, évidemment, le Audi Gate et tout ce qui est arrivé par la suite, le Volkswagen aussi. Ben, ouais. Benoît, est-ce qu'il reste encore dans les véhicules neufs du diesel? Parce que lui, c'était un grand amateur de diesel.
Il en reste encore. J'en avais un la semaine dernière. On a encore chez GM, entre autres, dans les véhicules, les gros formats, le Suburban, Tahoe, Yukon, Escalade et les pick-up Silverado, un moteur V6 3 litres diesel qui remplit bien sa fonction. Parce que c'est des véhicules très gros, très lourds, et avec des modèles à essence, des moteurs à essence extrêmement gourmands. Donc, le diesel vient donner une économie qui est souhaitable dans ce genre de véhicule-là. On en a encore un petit peu dans certains véhicules, comme chez Ford, dans les camions F-150, il y a encore des versions diesel. Mais ça devient très rare parce que les hybrides, en termes d'économie de carburant, font aussi bien, sinon mieux que le diesel, mais sans la pollution qui est reliée au diesel.
Ben
donc,
oui.
Dans tout ce qui est véhicule de plus petit format, c'est mort et enterré, ça ne reviendra pas chez nous.
Ah non, non. Donc, c'est un peu une autre époque qui
va... Oui, c'est une autre époque, Paul, c'est un bon terme. Oui.
Évidemment, ça va être remplacé, tout ça, par l'arrivée massive de l'électrique, du tout électrique.
Exact.
Benoît.
Du tout électrique et du hybride électrique.
Là, les prix d'essence, tu l'as vu ici même, dans la région.
Ah, ben, oui.
Ça monte, et ça monte encore. On s'ennuie du début de la pandémie, rappelez-vous, les cours du pétrole, c'était...
79 cents, je me rappelle.
Hey, te rappelles-tu? Ben oui, on s'était parlé un dimanche.
Absolument.
En Thérèse.
Je m'en rappelle.
Dans votre bout.
Je m'en rappelais, on s'en était parlé. Oui, absolument.
On avait ça à 83 cents.
Dans le bout de chez Thérèse, on en avait trouvé à 81 cents. Mais là, on est rendu une pièce et demie. C'est pas compliqué.
Ouais.
Et ça monte tout le temps à Montréal. Ma question, est-ce que tu crois que cette augmentation du prix de l'essence va encore avoir le même effet et va calmer le jeu sur la grosseur des véhicules? Il y a une mode, là. On est revenu encore au VUS.
Dès que l'essence baisse un peu, on peut voir là, littéralement dans les semaines qui suivent l'augmentation des ventes de gros véhicules. C'est comme si les gens achetaient... une pinte de lait au dépanneur, là. On dirait qu'on pense pas plus loin que le bout de notre nez. La bonne nouvelle, c'est que si les prix à la hausse persistent, là, on parle pas de quelques semaines, là. Si le printemps prochain, on est encore à 1,46, 1,48, 1,50, là, on va voir tranquillement une remontée de tout ce qui s'appelle plus petits véhicules, mais pour que ce système-là ou cette tendance-là perdure, malheureusement, il faut que les prix restent élevés parce que la seconde que les prix de l'essence baissent, les gens apprennent pas, ils retournent automatiquement se lancer dans les gros véhicules.
C'est incroyable.
C'est drôle, hein?
C'est pas possible. Moi, ça me renverse à chaque fois.
C'est un drôle de phénomène parce que ça se fait très rapidement. Le contraire est pas pareil. Là, on paye 1,50 puis encore...
Oui, mais ça, Thérèse, Benoît, c'est très nord-américain. Hein? C'est très nord-américain de mentalité.
Regarde, Paul, je suis en Europe, là. Puis en Europe, des baisses d'essence, il y en a, mais c'est jamais beaucoup. Et ça fait 20 ans que l'essence est deux fois le prix de chez nous. Alors ici, là, c'est comme, on le sait que l'essence coûte cher, puis les gens considèrent même pas d'acheter des gros véhicules, à moins d'avoir des budgets pharaoniques. Parce qu'en plus, il y a des taxes, les bonus-malus. Il y a une surtaxe sur les grosses cylindrées qui va avec le prix de l'essence. Fait que quand tu décides d'acheter un V8 en Europe, là, c'est parce que tu as un sérieux budget pour acheter un véhicule.
Benoît, depuis le début de notre émission, c'est la fête du travail aujourd'hui, on demande aux gens quelle a été votre pire gaffe ou encore racontez-nous une gaffe que vous avez fait au travail. Et on a réservé...
Oh, Seigneur Paul, moi j'en ai une monumentale.
Ben vas-y.
Premier travail à la radio en 1986, j'étais à Valleyfield à l'époque, CFLV, et le directeur de la station me demande d'aller interviewer le cardinal Léger qui, à chaque année, pour son anniversaire de naissance, donnait une grande messe à la cathédrale de Valleyfield. Alors moi, écoute pas, j'ai 22 ans, je commence, je prends mon courage à deux mains, mon enregistreur, je m'en vais à la cathédrale, je parle au curé de la cathédrale, très, très en avance, en demandant d'avoir une entrevue avec le cardinal Léger. On m'accorde l'entrevue. Je fais l'entrevue. Tout va bien. Je retourne à la station. Je commence à réécouter l'enregistrement. Les batteries sont mortes en chemin.
Ça, c'est comme... Écoute, ça, c'est comme Jérémy Rainville qui est allé à une conférence de presse importante pour
Francis Bouillon.
De Francis Bouillon avec un magnétophone qui n'a rien ramené.
Écoute, là, j'appelle, moi, le directeur de la station, paniqué, je dis, écoute, comme 4 minutes sur 10, mais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 4 minutes sur 10? J'ai dû prendre des piles neuves, retourner à l'église, attendre que la messe d'une heure et demie termine, et demander au curé si je pouvais pas recommencer.
Alors...
Le cardinal Léger a été très gentil, il me l'a accordé. Mais je peux-tu vous dire que j'étais pas gros dans mes souliers?
Et en terminant, Benoît, il y a un auditeur, dis-moi dans quel sens ça va, et tu vas comprendre. Est-ce que on ruine un moteur conventionnel en mettant du diesel dedans, ou l'inverse, on ruine un diesel en mettant de l'essence conventionnelle? Tu sais, la gaffe, là?
Oui. C'est quoi? On ruine un moteur diesel en mettant du conventionnel.
OK. Mais
on peut faire à peu près 200 pieds en mettant du diesel dans un moteur ordinaire. C'est pas recommandé, là. Prenez-en bien
200
compte.
Pieds.
Et le diesel démolit un moteur à essence.
OK, mais le goulot, là, empêche de faire ce genre de gaz-là,
aujourd'hui,
non?
Aujourd'hui, oui.
Mais moi, j'ai un ami à moi qui avait mis du diesel dans un Honda Civic quand j'étais à l'université. J'étais avec lui. Et à cette époque-là, les pompes à essence étaient de la même grosseur. Maintenant, on ne peut plus faire ça. Les pompes diesel sont plus grosses et le trou est fait en conséquence.
Bon, ça vient de régler.
Ça s'est fait dans le passé. Mais on peut encore mettre l'essence ordinaire dans des diesels, par contre.
Ben voilà! Donc,
faites attention.
Et ça, c'est mortel pour le moteur diesel, là.
Ah oui, non. C'est écoutez, c'est arrivé dans un véhicule de presse cet été. le préposé qui est reparti avec l'auto a fait l'équivalent de 300 mètres. Ça a pris deux semaines avant de purger le véhicule pour réussir à récupérer le moteur.
Je ris parce que c'est un véhicule
de 94 000 $.
Un véhicule de presse, en plus.
Oui, monsieur. Oui, absolument.
Est-ce qu'il fait beau à Munich?
Il fait extrêmement beau, 26 degrés, beau soleil. Là, j'ai hâte, on termine, nous, on revient demain matin, je retourne à l'hôtel, je vais aller prendre un petit peu l'air, on est en dedans toute la journée, il annonce beau toute la semaine.
Ah, c'est magnifique, quelle belle ville.
C'est magnifique, Paul, je m'en vais sur Marienplatz ce soir.
Oui, Marienplatz, il y a une belle horloge mécanique sur la place.
Oui, voilà, exactement, une des 3 ou 4 en Europe. Là.
Et là, les gens se ramassent, notamment à midi, parce que c'est des personnages qui passent, et comme des marionnettes, là, dans l'horloge.
Exactement.
Bonne
soirée. Oui, et Thérèse. Tu as le show complet. Alors.
Et Thérèse et moi, nous avons de bonnes notions d'allemand, tous les deux. Des fois, on se parle en allemand. Quand je vais engueuler Thérèse, je l'engueule en allemand.
Tout le temps.
Et vice-versa. On te dit ensemble Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Ouais.
Dankeschön.
Merci, Paul.
Das war. Das war Benoît Charette von das Annuel des Motorwerk 22.